France Musique. Tour de chant, Martin Penney.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, Joséphine Baker, reine du music hall. L'aventure de la Revue Nègre à Paris à l'automne 1925 est restée dans les mémoires surtout à cause de la révélation de la jeune Joséphine Baker. Car la productrice du spectacle, Caroline Dudley, n'a pas prolongé cette expérience très coûteuse pour elle. En revanche, les années 20 ont vu l'essor d'autres spectacles afro-américains à Broadway, puis en Europe, en particulier sous l'impulsion du producteur blanc Lew Leslie, qu'on surnommait « The Black Ziegfeld ». Inspiré par le mouvement Harlem Renaissance, lancé sur scène en 1921 par les artistes noirs de la revue Shuffle Along, qui a révélé la chanteuse, danseuse et comédienne Florence Mills, Lew Leslie a monté différents spectacles autour d'elle, The Plantation Review en 1922, puis Dixie to Broadway en octobre 24. Très différente de la jeune Joséphine Baker, qui a 10 ans de moins qu'elle, Florence Mills est fort appréciée pour sa présence sur scène effervescente, sa voix délicate de soprano et sa beauté séduisante. C'est dans Dixie to Broadway qu'elle a créé ce qui deviendra sa chanson fétiche « I'm a little blackbird looking for a bluebird », qui lui vaudra le surnom de Blackbird, le merle noir en anglais. Par sa voix d'oiseau, cette chanson est devenue un plaidoyer pour la tolérance raciale et la justice sociale. Mais Florence Mills n'a pas fait de disque. À l'époque, cette chanson a été enregistrée seulement par l'orchestre noir de Clarence Williams, avec Eva Taylor au chant, ainsi que les jeunes Sidney Bechet à la clarinette et Louis Armstrong à la trompette. Cette chanson, créée par Florence Mills en 1924, aura des retombées, car son titre va inspirer Lew Leslie pour lancer une série de spectacles sur le modèle des Ziegfeld Follies ou des George White Scandals à Broadway. Le premier de la série, nommé Blackbirds de 1925, est monté au Plantation Club en novembre 25. Il évolue vers une forme théâtrale plus aboutie et devient Blackbirds de 1926, présenté durant 5 semaines à l'Alhambra Theater de Harlem avant d'embarquer pour l'Europe. Il démarre de façon éblouissante au Club des Ambassadeurs sur les Champs-Élysées, qui deviendra bien plus tard l'Espace Cardin. Tout Paris vient à la soirée inaugurale le 27 mai 1926, notamment Maurice Chevalier, Sacha Guitry, Raquel Meyer et surtout la jeune Joséphine Baker, devenue une attraction sensationnelle dans la revue des Folies Bergères, La Folie du Jour, dont il a été largement question dans la précédente émission. Lancé par le succès de ses spectacles d'artistes noirs, le mot « Blackbird » est l'objet d'une appropriation par les Afro-Américains comme une sorte de surnom qu'ils adoptent à cette époque. Il est donc dans l'air, au point d'inspirer d'autres chansons sans lien direct avec les productions de Lew Leslie. 1926 voit ainsi le lancement de ce qui deviendra un tube de jazz repris tout au long du XXe siècle, « Bye Bye Blackbird », composé à New York par Roy Henderson, cet auteur à succès des années 20, à qui l'on doit aussi le « Black Bottom ». Joséphine Baker l'enregistre chez Odéon début 27, accompagnée par le Jacobs Jazz du trompettiste belge Léon Jacobs. Comme le révèle l'écoute de ce disque, les studios Odéon bénéficient depuis quelques mois de l'enregistrement électrique avec microphone. À cette époque, Joséphine Baker commence à chanter pour les clients du restaurant cabaret qu'elle anime chaque soir rue Fontaine depuis décembre 1926. En revanche, il n'y a pas encore de micro sur scène au Music Hall et le directeur des Folies Bergères, Paul Derval, ne fait pas chanter Joséphine car il craint que sa voix ne porte pas suffisamment. La nouvelle revue des Folies Bergères, donnée le 25 mars 1927 et intitulée « Un vent de folie », est en quelque sorte un prolongement de la précédente et confirme la popularité de Joséphine Baker auprès du public. Le fantaisiste Alibert et les John Tiller's Girls en sont toujours les principales attractions. Une des curiosités de ce spectacle, à nouveau conçu par Louis Lemarchand, est un tableau sur les hallucinations érotiques après avoir trop bu du pompier de service du théâtre. Il donne lieu à la projection d'un film comique muet de 8 minutes, tourné en extérieur et dans le métro parisien, avec le comique Carole dans le rôle du pompier, défigurante et bien sûr l'exubérante Joséphine qui redouble de grimaces, de contorsions et danse le Black Bottom. Cet effet inattendu de mise en scène permet aux spectateurs des Folies Bergères de voir l'image très agrandie de la vedette, simplement vêtue d'un soutien-gorge et d'un pagne. Thank you. Les critiques soulignent toutefois que Joséphine Baker ne se renouvelle guère, car la plupart de ses apparitions au cours de la revue lui donnent juste l'occasion de danser et de jouer à la sauvage. Le premier acte la montre d'abord dans le tableau Plantation, où elle est accompagnée sur scène par un petit orchestre de 6 musiciens noirs, le Thompson Jazz, et porte une courte salopette rapiécée rouge sombre avec une chemise blanche et des sockets assortis. Il existe un précieux témoignage de cette scène, car elle figure dans le film muet de 1927, réalisé par Joe Francis, La Revue des Revues. Ensuite, se grimant le visage en noir, Joséphine imite Johnny Hodgins, le sensationnel danseur blackface de la troupe des Blackbirds, qu'elle a pu applaudir aux ambassadeurs l'année précédente, lequel est de retour à Paris, cette fois seul, toujours aux ambassadeurs. Le deuxième acte de la revue des Folies Bergères présente une hôtellerie sous Louis XIII, puis la même en 1927, animée par le Thompson Jazz, et Joséphine, dont le corps nu est orné d'une légère parure de perles et de longues plumes rouges accrochées à sa taille. Un peu plus tard, sa scène sur les animaux de la jungle a un goût de déjà-vu. Elle incarne une chasseresse et se voit entourée de singes bienveillants qui jouent de la musique et finit par danser avec le lion un Charleston fraternel. Le final, Paris en folie, avec toute la troupe, se conclut par la danse du Black Rouli. En dehors de la scène des Folies Bergères, on voit toujours Joséphine Baker en compagnie de son manager et amant Pepito Abatino. Ils fréquentent toutes les mondanités et la rumeur de leur mariage, qui se répand en juillet 27 dans la presse américaine, fait rêver la communauté noire. Ce n'est pourtant qu'un coup de publicité. Joséphine n'épousera jamais Pepito car elle est toujours mariée aux États-Unis à Willie Baker. Pepito décide d'éloigner Joséphine de la communauté noire de Montmartre. Il façonne un nouveau personnage et entreprend son éducation. Il définit sa coiffure, son visage, sa façon de marcher, de s'habiller, de se comporter en société. En manager avisé, obsédé par l'argent et très autoritaire, Pepito négocie tout pour Joséphine. Jamais à court d'idées pour faire parler de sa vedette, il lui fait faire beaucoup de publicité avec toutes sortes d'articles à son effigie. Paire de bas, boîte de cigares, parfums, bijoux, poupées, camembert Charleston, publicité pour la lotion Garnier, avant de lancer sa propre marque de brillantine pour fixer les cheveux, le Baker Fix, ainsi qu'une huile bronzante, le Baker Oil. Toujours présent dans son entourage, le compositeur noir Spencer Williams offre à Joséphine « I Love Dancing » et « Lonesome Lovesick Blues » qu'elle grave chez Odéon en juin 27. Suivant la vogue des duos de pianistes lancés 2 ans plus tôt par les célèbres Wiener et Doucet, elle est accompagnée cette fois aux deux pianos par Jacques Frey et Mario Bracciotti.
Dancing makes my blood a tingle, makes me feel proud. Dancing always cures my very ill. When I hear a jazzy strain, my tootsies go insane. Must shake 'em. Dancing makes me want to mingle with any crowd. Like a jumping jack, I can't be still. I'm always glad when they strike up the band. That's the time my feet is for men. For I love dancing, I love dancing all the time. For it is so entrancing, so romancing, joy sublime. Every step and rhythm makes me step out and win. I gotta keep my rhythm cause I wanna keep in. I love dancing, I love dancing all the time. Every step the rhythm makes me step out and win. I gotta keep my rhythm cause I wanna keep singing.
Pépito encourage la publication en juin 1927 des mémoires de Joséphine Baker, recueillies par Marcel Sauvage, avec 30 dessins inédits de Paul Colin. La vedette est pourtant à peine âgée de 21 ans, et cela justifiera après la guerre une nouvelle version très étoffée par le même auteur. Toujours en 1927, Paul Colin, qui fut l'amant de Joséphine au temps de la Revue Nègre, lui accorde une place de choix dans son fameux recueil de lithographie, Le Tumulte Noir, dont elle signe l'une des préfaces, l'autre étant écrite par le chansonnier caricaturiste Rip. Cet ouvrage mythique restera comme un témoignage sur le Harlem de Montmartre et un vrai marqueur de l'époque. Avant la prise en main de la carrière de Joséphine par Pépito Abatino, Marcel Sauvage a brièvement joué auprès d'elle le rôle de secrétaire, tout comme un jeune écrivain belge nommé Georges Simenon, qui a une liaison de plusieurs mois avec elle. Ce dernier lance même en avril 27 un mensuel bilingue nommé Joséphine Baker's Magazine, qui ne connaîtra qu'un seul numéro. Cette même année 1927, Pépito Abatino décide de faire tourner à Joséphine son premier film et lui décroche un contrat pour La Sirène des Tropiques, réalisé par Henri Étiévant et Mario Nalpas, sur un scénario écrit pour elle par le romancier Maurice de Cobra. Joséphine Baker a pour partenaires les acteurs renommés Pierre Batcheff et Georges Melchior, ainsi que Joé Alex, avec qui elle dansait dans La Revue Nègre sa danse de sauvage. Ce film muet de 86 minutes, tourné durant l'été, est censé se passer aux Antilles, puis à Paris. Nourri de clichés exotiques, mais comportant une belle scène de music hall, cette comédie sentimentale est bien loin d'être un chef-d'œuvre. Car pour ses débuts devant la caméra, il a manqué à Joséphine une bonne direction d'acteur. Sorti à la fin de l'année 27, le film n'obtient qu'un succès d'estime et laissera la jeune vedette méfiante vis-à-vis du cinéma. Sentant venir le danger d'une certaine lassitude du public français, Pépito Abatino décide de fermer le cabaret chez Joséphine Baker et d'organiser pour elle une grande tournée internationale qui se prolongera durant 2 ans et demi. Après la dernière représentation de la revue des Folies Bergères, une soirée d'adieu est organisée à la salle Pleyel le 28 janvier 1928 avec le Jacobs Jazz ainsi que le duo de pianistes Vienner et Doucet. Joséphine danse le Charleston, chante plusieurs titres en anglais et pour la première fois, assise sur le piano, interprète un titre en français. Mais il n'en subsiste aucune trace sonore. En revanche, Jean Vienner et Clément Doucet ont continué à enregistrer de nombreux disques chez Columbia durant ces années marquées par la frénésie du Charleston. Leur jeu fait preuve d'une imbrication harmonique particulièrement virtuose, comme en témoigne ce Piccadilly Strut, gravé en février 1928. Joséphine Baker va d'abord sillonner l'Europe, suivant les engagements négociés par Pepito Abatino par l'intermédiaire d'un impresario. À chaque étape, il est prévu que les représentations soient suivies du passage de la vedette dans un cabaret spécialement rebaptisé chez Joséphine Baker. Elle voyage seule avec Pepito, suivie par les musiciens du Jacob's Jazz, tandis que les chanteurs et danseurs sont recrutés sur place. Le spectacle est donc différent d'une ville à l'autre. Mais Joséphine exhibe à chaque fois les fameuses ceintures de banane ou de plumes d'autruche qui ont fait sensation depuis 2 ans. La première étape de la tournée est Vienne. Avant même son arrivée en Autriche, les ligues de vertu catholique montent une cabale contre, je cite, « ses exhibitions pornographiques et ses cachets indécemment élevés ». Le scandale est tel que la production doit changer de théâtre. Pepito est, lui, enchanté de cette forme de publicité. La revue de Joséphine, intitulée « Noir sur blanc », alterne des chants et numéros de danse qui ont déjà fait son succès à Paris, comme le célèbre titre écrit et composé en 1926 par Irving Berlin, « Blue Skies ».
France Musique, tour de chant, Martin Penet.
I'm blue, just as blue as could be. Every day is a cloudy day for me. Since good luck came knocking at my door. Eyes are gray, but they're not gray anymore. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all the day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. I notice that the days are hurrying along. When you're in love, oh, how they're gone. All of them gone. Nothing but blue skies all the day long.
Arrivée à Berlin en octobre 1928, Joséphine Baker se retrouve à jouer 5 tableaux dans une revue assez médiocre où des groupes nazis sèment le désordre tandis que la presse de droite l'étrille. L'ambiance a bien changé depuis son passage de début 1926 avec la Revue Nègre, où toute la ville la célébrait, où Max Reinhardt, le metteur en scène de renommée mondiale, avait proposé de la former au sein de son école d'art dramatique et de l'engager au Deutsches Theater. Victime en plus d'une escroquerie, elle repart avec Pepito au bout de quelques semaines. À Zagreb, un dessinateur tente de se suicider pour Joséphine, ce qui fera grand bruit au-delà des frontières. À Budapest, le spectacle est perturbé par des opposants. À Munich, il est même interdit. En revanche, à Copenhague, Prague et Bucarest, l'accueil du public est délirant. Courant 1929, les mémoires de Joséphine Baker seront traduits en allemand, en tchèque, en espagnol et en italien.
Many long, long years ago, I left my own little home, Alabama, way down south, glad to the night. To my regret, I wanna be back there in Alabama, corn flip. Breakfast such as I ain't had since I left my dear old dad. So I'm a-leaving for Alabama in the morning, where there is sunshine, song and love all the glow. I'm tired of roving around this world for nothing, till I belong to see my little beau. Jim is waiting there, I know. Oh, he's handsome, my old beau. Big brown eyes and a way all of his own. So I'm a-leaving for Alabama in the morning, where there is sunshine, song and love all the glow.
Après une halte parisienne en avril 1929, Joséphine et Pepito repartent pour Berne, Gênes, puis s'embarquent pour une longue traversée vers l'Amérique du Sud, où ils resteront 7 mois au lieu des 3 mois initialement prévus. leur périple sera émaillé de multiples intrigues, parfois hostiles, souvent favorables. Arrivée à Buenos Aires, Joséphine est emportée malgré elle dans les luttes politiques qui déchirent alors l'Argentine, devenant la cible de campagnes de presse. Le théâtre où elle se produit se transforme souvent en champ de bataille, mais elle est tout de même fêtée par les Français expatriés. En Uruguay, puis au Chili et au Brésil, l'ambiance sera tout de même plus calme. Sur le paquebot qui les ramène en France en novembre 1929, Joséphine noue une idylle passagère avec l'architecte Le Corbusier. Toutes les péripéties des deux années écoulées donneront lieu à un feuilleton publié dans la presse française et finalement à un livre édité en 1931, « Voyages et aventures » de Joséphine Baker. Pendant ce temps, Paris continue à accueillir des productions de spectacles noirs dans la lignée du premier Blackbirds monté aux ambassadeurs en 1926. Le décès prématuré à New York en novembre 27 de Florence Mills, vedette attitrée et très estimée des productions de Lew Leslie, qui n'avait que 31 ans, a conduit ce dernier à engager pour la remplacer une autre artiste afro-américaine de grand talent, Adelaide Hall. C'est donc elle qui a mené triomphalement à New York Blackbirds de 1928 durant plus d'un an au Liberty Theatre. La production est rebaptisée Blackbirds de 1929 pour sa présentation à Paris au Moulin Rouge à partir du mois de juin avec un succès comparable à celui des ambassadeurs 3 ans plus tôt. Comme à Broadway, Adelaide Hall obtient un succès étourdissant dans le numéro syncopé de Digga Digga Doo, enregistré pour la première fois en juillet 28 par Duke Ellington et son orchestre. Dans les morceaux chantés, la vedette se distingue avec I Can't Give You Anything But Love et I Must Have That Man, qu'elle a enregistré à New York quelques mois après sa création. Au retour de sa tournée en Argentine, fin 1929, Joséphine Baker achète au Vésinet, à l'ouest de Paris, une belle demeure de style néo-renaissance, la Villa Beauchêne. Entourée de ses animaux familiers, elle fait repeindre ses 30 pièces de couleurs variées et fait jardiner son vaste parc à l'anglaise, n'hésitant pas à prendre aussi la bêche. Adorant cuisiner à l'occasion, elle reçoit somptueusement ses amis du Music Hall, le tout Paris artistique et littéraire, tout en étant proche des habitants, notamment des pauvres et des orphelins, qu'elle comble à l'improviste de cadeaux. Puis, Joséphine Baker repart en tournée dans les pays qu'elle n'a pas encore visités. L'Espagne de février à avril 1930, au cours d'un séjour encore émaillé de quelques incidents, puis la Belgique en mai et en juin. Lors de ses haltes parisiennes, Joséphine n'a pas manqué d'aller au Moulin Rouge voir le nouveau spectacle des Blackbirds avec Adélaïde Hall, puis au Casino de Paris où la grande Miss Tinguette, maniant le chic et le canaille comme personne, aussi naturelle en gosse des faubourgs qu'en déesse empanachée, est à l'affiche depuis novembre 1929. Elle inaugure la nouvelle direction d'Oscar Dufresne et Henri Varnat avec la revue Paris Miss.
Paris, je vais joyeusement à qui m'admire. Je donne mon sourire. J'ouvre des grands yeux et dans le ciel ça met du bleu. Je passe comme un frisson sans plus de façon. Ce qui me fait remarquer, c'est toute ma simplicité. Les hommes s'arrêtent et perdent la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je devine à leur émoi. Ce doit être pour mon petit je ne sais quoi. Moineau de Paris, mon chic, c'est mes chichis, une fleur, des rubans, des iriens, voyez, ça va très bien sur les boulevards, avenue du Bois à l'Opéra. J'ai tous les regards et chacun m'emboîte le pas. Mais on me suit amoureusement en parlant très gentiment. C'est pas pour mes toilettes seulement, c'est pour ce qu'il y a dedans. Il y a mon cœur qui sait s'aimer sans être moqueur. Et cher Chani, je suis le vrai moineau de Paris.
Mais vous aviez déjà des admirations qui ne s'adressaient pas uniquement à des danseuses.
Ah, bien sûr. J'ai admiré beaucoup Miss Tinguette, par exemple.
Vous deviez d'ailleurs rapidement suivre l'exemple de la Miss, puisque vous êtes devenue une meneuse de revue.
C'est Miss Tinguette qui m'a appris à descendre des escaliers du Casino de Paris, comme je l'ai fait moi-même pour Lynn Renault, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait apprendre, mais je me suis permis de lui donner un petit conseil.
Joséphine Baker se confie en 1962 à la chanteuse Miss Tigri. Entre ses différents voyages, elle prépare son grand retour parisien car Henri Varnat l'a engagée au Casino de Paris pour la saison 1930-31. Elle prendra donc la suite de Miss Tinguette qui, elle, pendant ce temps, partira avec sa troupe accomplir une grande tournée française et européenne. Miss Tinguette, qui à force de travail s'est progressivement hissée au statut de reine incontestée du musical La Grand Spectacle, ne voit évidemment pas d'un très bon œil l'arrivée de cette jeune concurrente au charme inédit, qui a tout de même 31 ans de moins qu'elle. Pour tenter d'égaler Miss Tinguette, Pépito fait prendre à Joséphine des cours intensifs de chant et de danse avec les meilleurs professeurs de Paris et aussi des cours de français. Elle achève ainsi d'opérer sa grande transformation, entamée 2 ans et demi plus tôt, passant de la Vénus noire exotique à la vedette de music hall parisienne, comme l'expliquera bien plus tard le directeur Henri Varnat à la radio.
En septembre 1930, ce fut Paris qui remue, avec Joséphine Baker. C'est dans Paris qui remue que pour la première fois, Joséphine Baker se classa comme grande vedette, chantant, dansant, jouant la comédie. Jusque-là, Joséphine Baker se contentait d'être drôle en dansant avec une ceinture de banane.
Contrairement aux deux revues des Folies Bergères auxquelles elle a participé précédemment comme danseuse excentrique, Joséphine va devoir en effet multiplier ses talents. Au Casino de Paris, il s'agit moins de montrer la plastique des corps que de danser, chanter et jouer des sketchs, le tout en français bien sûr. Le pari est risqué, mais elle a beaucoup travaillé, de sorte que le public va adorer sa voix insolite, haute et mélodieuse, ainsi que son délicieux accent.
Lorsque je reviens de voyager à l'étranger, j'avais peur de voir un Paris tout changer. Et pourtant j'ai retrouvé chez vous l'accueil si doux et la gentillesse qui m'a touché avant tout. J'ai revu ce mon maître charmant que j'aime tant et notre Montparnasse toujours dans ses beaux jours. Comme ici j'avais laissé mon cœur, ah quel bonheur d'entendre tous mes amis chanter en chœur. Dites-nous Joséphine, à quoi rêves-tu, d'où vient la divine? Dites-nous Joséphine, à quoi penses-tu sur le ciel d'Argentine? Je vous l'avoue partout où je passais, c'est à toi, Paname, que je rêvais. Dites-nous, Joséphine, il est décidé pour ton qui domine. Dites-nous, Joséphine, devant leur beauté, le monde s'incline. Je suis tout à fait de votre avis. Dans tous les pays, on aime l'orie, mais il n'y a qu'un Paris.
En reconnaissance de ses efforts, Henri Varna a offert à Joséphine Baker un jeune guépard qu'elle a nommé Chiquita et dont elle deviendra inséparable jusque dans les soirées parisiennes et même sur scène. Pour l'affiche magnifiquement dessinée par Zig, elle pose nue et chargée de plumes à côté de l'animal assis lui offrant un énorme bouquet. Ce dessin très coloré souligne l'élégance encore sauvage de la vedette qui va créer un événement considérable en occupant l'affiche du Casino de Paris durant de longs mois. La revue Paris qui remue, donnée le 26 septembre 1930, présente donc Joséphine Baker pour la première fois en grande vedette. Ce spectacle anticipe de plusieurs mois l'inauguration de l'exposition coloniale, gigantesque célébration de l'Empire dont la France d'alors s'enorgueillit, le deuxième au monde après celui du Royaume-Uni. Plus encore que dans la recette habituelle des revues à grand spectacle, celle-ci offre à ses spectateurs du dépaysement à bon marché, à une époque où, il faut le rappeler, les gens voyageaient infiniment moins que de nos jours. Cette revue en deux actes et 45 tableaux a été conçue par le directeur Henri Varna, Léo Lelièvre et l'américain Earl Leslie, déjà connu comme chorégraphe, partenaire et ex-amant de Miss Tinguette.
France Musique, Tour de chant, Martin Penney.
Joséphine Baker fait son entrée au premier acte dans un tableau intitulé « L'oiseau des forêts ». Le corps paré de magnifiques aigrettes et de deux grandes ailes blanches dans le dos, elle apparaît en haut du grand escalier d'or et le descend majestueusement, comme le lui a longuement appris Henri Varna, tandis que des girls, suspendues dans un décor vert et rose de jungle tropicale, battent des ailes sous le feu des chasseurs et des archers. Un peu plus tard commence l'évocation des colonies françaises, avec d'abord la Martinique. Joséphine incarne une jolie martiniquaise, tandis que Joey Alex, son ancien partenaire de la Revue Nègre, joue le planteur et Adrien Lamy, l'amateur de canne à sucre. Cette évocation est agrémentée d'une chanson aux allusions plus que coquines qui marquera durablement les esprits. Joséphine l'interprète en descendant dans la salle pour distribuer aux spectateurs des sucres d'orge.
Je vois là-bas près de son mari une dame qui se dit j'en veux aussi. Belle madame, en rentrant ce soir, vous allez en avoir. Faites-lui une pipe, le briser, il ne saura rien vous refuser et mettra sur la table cette douceur agréable. La canne, 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 mon dessert favori. La canne, la canne, la canne de mon pays. En voulez-vous de la canne sucre, c'est vous. C'est meilleur que la banane, ça se suce pas le petit bout. Mesdames, prenez mon offrande, vous trouverez ça si grisant. Quand vos maris petits gourmandes, vous direz redonne-moi-en.
Oh Miss, vous avez donné tout, et moi j'en vous laisse un petit bout.
Tiens, tiens,
pour
tiens,
voir
tiens.
Si vous avez raison de trouver ça si bon.
Ne vous désolez pas, voyons. Par là, j'ai ma petite provision. Venez, jolie personne, afin que je vous donne la canne, 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 mon dessert favori. La canne, la canne de mon pays. En voulez-vous de la canne à sucre, c'est vous. C'est meilleur que la banane, ça se souce pas le petit bout. Mesdames, je vous recommande de profiter de l'occasion et de vous montrer gourmande pour la repopulation.
Le tableau suivant est consacré à l'Algérie avec Dandy et Adrien Lamy, mais sans Joséphine. Arrive ensuite l'Indochine avec une évocation du Tonkin, pays alors sous protectorat français qui deviendra le Nord-Vietnam. Cette fois, Joséphine reprend un succès composé en 1906 par le Marseillais Vincent Scotto, qui fut créé à l'époque par le comique troupier Paulin ainsi que par la diseuse Esther Lequin et qui connut un succès international. Le tableau raconte les amours entre un colonial français, incarné par Pierre Meyer, et une jeune tonkinoise. Quelques boys en chapeau de coulis et une douzaine d'anamites de fantaisie complètent l'animation.
Soir en cause, dans ta chose, avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve bleu, y'a même l'amour, c'est curieux, car on s'enfile du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tante qui, sa tante qui, sa tante qui moise. Dans le riz, pour les doux yeux,
la réappropriation en 1930 de cette chanson ancienne en forme de polka asiatique par Joséphine Baker, artiste d'origine afro-américaine, a de quoi surprendre. Mais elle parviendra à l'attacher durablement à son répertoire, éclipsant dans l'esprit du public ses vrais créateurs.
C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tante qui, sa tante qui, sa tante qui moise. J'en prie pour les
Pour son grand retour parisien, Joséphine Baker a changé de maison de disque et enregistre désormais pour la prestigieuse Columbia, accompagnée par l'orchestre de 40 musiciens du Casino de Paris, dirigé par Edmond Mailleux. Dans la grande exposition coloniale qui ouvrira ses portes au Bois de Vincennes en mai 1931 et pour 6 mois, sa version de la petite tonkinoise sera copieusement diffusée par les haut-parleurs de la section indochinoise, dont la principale attraction sera une reconstitution grandeur nature du temple central d'Angkor Wat. Joséphine est élue reine des colonies, titre habituellement réservé à une Française de couleur, mais qui lui sera finalement refusé puisqu'elle est de nationalité américaine. La longue fresque sur les colonies françaises de la revue du Casino de Paris se termine par le tableau du jazz colonial qui conclut le premier acte, Joséphine étant bien sûr l'impératrice du jazz, saluée par une dizaine de coloniaux. Toute la troupe l'entoure, incarnant successivement les tambourins algériens, le carillon des Indes, le tam-tam de Madagascar, les noix de coco du Congo, les tcha-tcha de la Guadeloupe, les musiciens martiniquais et les gongs indochinois. Dans ce festival musical, on peut notamment entendre des accents de biguine martiniquaise, tels qu'elles se pratiquent alors dans certains cabarets de la capitale, en particulier le bal colonial de la rue Blomet dans le 15e arrondissement, surnommé le bal nègre, fréquenté par les Antillais et animé par l'orchestre du violoniste Ernest Léardé, ici enregistré en juillet 1930. Le deuxième acte de la revue Paris qui remue amène assez rapidement le tableau Unawa, une scène dramatique censée se dérouler en Afrique équatoriale, d'abord dans un comptoir, puis dans une tribu indigène. Joséphine Baker incarne une sauvageonne éprise d'un colon blanc, incarné par Adrien Lamy, qu'elle voudrait bien suivre en Europe. Mais ceux de sa tribu s'y opposent, considérant ce départ comme une trahison. La vedette lance alors comme une plainte la chanson qui deviendra l'hymne de toute sa carrière. Les paroles sont signées du prolifique Géo Cogé et d'Henri Varna, qui a dû en donner l'idée, tandis que la musique a été composée par Vincent Scotto. Elle fut pourtant écrite in extremis, quelques jours seulement avant la première, comme le rappelleront en 1949 Joséphine et son biographe Marcel Sauvage.
Enfin, je me souviens de cette chanson, J'ai deux amours, qui a d'ailleurs été écrite d'une façon très drôle. Vincent Scotto, qui a fait d'excellentes choses pour Joséphine Baker, ne savait pas très bien à cette époque, il l'avait étudiée. Et puis un jour, en rentrant chez lui, vers 2h du matin, sous une porte cochère, il a eu l'inspiration et il a écrit J'ai deux amours.
Oui, c'est
bien, c'est une histoire très amusante
exact,
de Scotto.
Oui. Nous l'avons vu l'autre jour.
Nous l'avons vu l'autre jour, oui, on le voit souvent et il t'aime beaucoup d'ailleurs.
Prends les bras et le père battant.
son pays est Paris.
Bien que l'héroïne de cette chanson, chantée en duo avec Adrien Lamy, soit africaine, d'où la référence à la savane et autres clichés exotiques tels que le rêve de Paris vu de l'Équateur, la chanteuse, nous le savons, est d'origine afro-américaine. Mais Joséphine Baker va tellement s'approprier cette chanson qu'elle finira par symboliser son attachement à Paris, sa ville adoptive. Cette déclaration d'amour va devenir sa profession de foi et en somme sa chanson fétiche qu'elle conservera jusqu'à la fin de sa carrière pour ses entrées en scène. Joséphine renouvelle d'ailleurs son attachement à Paris dans un tableau ultérieur de la revue intitulé « Femmes et friandises » où elle répond à Adrien Lamy et Pierre Meyer dans la chanson sketch « Dis-nous Joséphine ». Pour l'enregistrement réalisé chez Columbia, elle assure curieusement à elle toute seule les chœurs des Jackson Boys et les répliques de ses deux partenaires.
Puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous, Joséphine, quel est ce témoin qu'en toi je divine. Quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes souvenirs. Dites-nous, Joséphine, oui, dites-nous pourquoi. Ton cœur s'illumine. Dites-nous, Joséphine, si comme autrefois, Paris te fascine. Vous le voyez bien par mon retour. La France est toujours idéal séjour. Aura mon amour.
Le second acte permet encore de voir la vedette dans le tableau électricité et bien sûr dans le grand final avec toute la troupe. La revue à grand spectacle Paris qui remue tiendra l'affiche du Casino de Paris durant plus d'un an jusqu'en octobre 1931, dépassant allègrement les 500 représentations. Parallèlement, Joséphine Baker enregistrera au fil des mois, toujours chez Columbia et avec l'orchestre d'Edmond Mailleux, plusieurs titres en anglais qui ne font apparemment pas partie du spectacle. Love is a Dreamer, My Fate is in Your Hand, Confessing That I Love You ou encore You're Driving Me Crazy. Le plus marquant est peut-être Suppose, dont la musique est en réalité due à un compositeur espagnol rencontré lors de la tournée du printemps 1930. Cette chanson vaudra à Joséphine l'un des trois grands prix du disque décerné pour la première fois en mai 1931 pour les titres de la catégorie musique légère parus l'année précédente.
Place that known to all as a love.
suppose you found madness just hard to be. Suppose that I could really make you see that it is all this life without you, dear, means a chance, a paradise for me.
C'est également début 1931 que paraît dans une certaine indifférence le livre « Mon sang dans tes veines », commencé fin 1929 à bord du paquebot revenant d'Amérique du Sud. Rédigé par Giuseppe Abatino et Félix de la Camara, d'après une idée de Joséphine Baker, ce livre est nourri de son expérience et des attaques souvent racistes qu'elle a endurées durant sa longue tournée internationale de 1928 à 1930. Dans ce roman naïf, aux accents parfois mélodramatiques, qui aborde le sujet encore controversé par les scientifiques de la transfusion sanguine, se dessinent tous les choix futurs de Joséphine et l'idéal de fraternité qu'elle essaiera de mettre en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Pour l'heure, le public est surtout occupé par ses prestations scéniques et la vedette va poursuivre son ascension au firmament du music hall, occupant une place grandissante dans le cœur des Français. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette série sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. Tour de chant, une émission de Martin Pennet avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Antoine Viossa au mixage, Noé Mignard à la réalisation. Merci à Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
France Musique.